Vous écoutez RTL.
18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une, quand le rap dérape. Scandale après la diffusion d'une chanson et d'un clip ultra-violent appelant à pendre les Blancs et à tuer leur bébé par le rappeur Nick Conrad. Toute la classe politique condamne un texte abject, réclame des poursuites. YouTube vient de retirer la vidéo en ligne. Elle était en ligne depuis 9 jours. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation publique à la commission d'un crime et d'un délit. Alors dans un instant, ce document RTL, vous entendrez les justifications du rappeur Nick Conrad qui assume son texte et ses images. Vous entendrez également Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, le débat tout à l'heure dont refait le monde. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Le fait du prince, l'Élysée se mêle de la justice. Les 3 candidats possibles au poste de procureur de Paris ont été retoqués par l'exécutif. Les magistrats s'indignent. Explication dans un instant.
À 18h20, première invitée d'RTL Soir, la secrétaire générale du syndicat de la magistrature, Laurence Blisson.
Nuit debout devant les abattoirs, les militants antispécistes se mobilisent sur 5 sites. On redoute une confrontation avec les éleveurs. Le Monde selon Trump, aux antipodes du monde selon Macron, discours diamétralement opposé tout à l'heure au Conseil de sécurité de l'ONU. À suivre également une hotline pour les pédophiles pour empêcher autant que possible le passage à l'acte. Une pénurie annoncée pour le principal traitement de la maladie de Parkinson et puis un mariage de rêve pour les fashion victimes. Snapchat et Amazon font alliance. Une photo, un achat,
c'est magique.
La bourse de Paris, elle termine ce soir en hausse de 0,61% à 5 512 points. Les courses à Vire, il fallait jouer le 10, le 15, le 5, le 13 et le 16.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, les parlementaires veulent mettre nos aliments au régime sec avec moins d'additifs, moins de sel, moins de sucre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est autorisé? Puis direction les coulisses de l'actualité, la planète golf se retrouve toute la semaine près de Paris pour la Ryder Cup. On vous amène en coulisses d'un green aux allures de tapis rouge. 18h30 Alain Duhamel, Macron, Trump, la mésentente cordiale. 18h35, je vous propose ce témoignage RTL. Vous vous en souvenez peut-être, il y a 4 ans, jour pour jour, Cynthia mourait en mettant au monde son bébé à la maternité d'Orthez. La faute à l'erreur médicale d'une anesthésiste complètement ivre. Pour la première fois, l'époux de Cynthia, Yannick et sa sœur Iris prennent la parole. C'est tout à l'heure donc sur RTL. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Du soleil pour demain et des températures en hausse l'après-midi.
Oui, mais seulement demain après-midi. Hein. Demain matin, les températures comme ce matin seront assez fraîches, en particulier sur le nord-est avec sans doute des petites gelées blanches. 2 degrés seulement demain matin à Reims, 10 degrés à Paris, 19 à Biarritz, sous un ciel parfaitement dégagé. Ce sera du grand soleil toute la journée. Dans l'après-midi, on a de l'air chaud qui est arrivé aujourd'hui sur le sud-ouest, qui remonte d'Espagne. Et bien demain, les températures vont grimper partout. Température estivale jusqu'à 27 degrés à Brest comme à Paris et Ajaccio. 31 degrés de maximum à Bordeaux et Biarritz. Et 23 degrés, ce sera la température la plus basse pour Lille.
A tout à l'heure, Patricia.
RTL Soir.
Et à nouveau, Isabelle, le rap fait scandale. Un clip qui appelle à pendre les Blancs provoque l'indignation.
Oui, un clip du rappeur Nick Conrad qui, jusqu'à ce matin, était visible sur YouTube. Dans ce morceau, le chanteur appelle à tuer des bébés blancs et à pendre leurs parents pour divertir les enfants noirs. Ce sont les paroles. Paroles accompagnées d'images d'une extrême violence, quelque part entre torture et exécution sommaire. Condamnation unanime au gouvernement et le parquet de Paris ouvre une enquête pour provocation au crime. Mourad Jabari, vous vous êtes rendu pour RTL dans le quartier de ce rappeur à Noisy-le-Grand.
Oui, et le rappeur est depuis ce matin étonné des réactions provoquées par son clip. D'après Nick Conrad, c'est une incompréhension. Son court-métrage est un projet artistique et selon le rappeur, ce n'est pas du tout une incitation à la haine, même s'il reconnaît que les images et les paroles violentes de sa chanson peuvent choquer.
En disant pendant les Blancs, effectivement, on est dans la provocation, c'est vrai. Mais j'ai réalisé un court-métrage qui reste une fiction. Je veux dire, il arrive un moment où, pour moi, les choses sont simples et claires. Je pense qu'un raciste, pour de vrai, ne peut pas se vanter de prendre le micro et dire des choses abominables, comme c'est dit dans le clip. Je ne peux pas regretter ce que j'ai dit, parce que je sais pourquoi je l'ai dit et je continue à porter ce message qui, est plus en profondeur, est un message d'amour, en réalité, plus qu'un message de haine. C'est ce qu'il est temps que les gens comprennent.
Donc le rappeur ne regrette rien et ses explications ont du mal à convaincre la maire de Noisy-le-Grand, Brigitte Marcini. C'est sur sa commune, dans le quartier de Champy, que le clip a été tourné.
Est-ce que c'est pour mettre en avant le quartier? Je suis même pas sûre. Ils rentrent dans un parking, ils étranglent un mec. Enfin, c'est pas acceptable, cette incitation à la haine. Enfin, on est dans un pays civilisé, non, d'une pipe. N'importe quoi. Je suis scandalisée.
La mère de Noisy-le-Grand qui n'exclut pas de porter plainte dans les jours à venir.
Morad Jabari qui a donc rencontré Nick Conrad donc pour RTL.
Troisième demande de remise en liberté refusée pour Tariq Ramadan. La défense de l'islamologue s'effondre face à de nouveaux éléments. Près de 400 SMS échangés avec une des femmes qui l'accuse de viol. Leur contenu très explicite met à mal la version d'un simple jeu de séduction.
Est-ce le retour du fait du prince? L'Élysée se mêle de la justice et provoque l'émoi des magistrats.
En jeu, le choix du successeur de François Molins comme procureur de Paris, poste éminemment sensible. La garde des Sceaux a théoriquement la main sur cette nomination. Nicole Belloubet avait trois candidats en tête, mais l'Élysée a fait part de ses réticences. Bonsoir Jean-Alphonse Richard.
Bonsoir.
Cet interventionnisme passe très mal.
Oui, au point de provoquer ce soir un avis de tempête dans le monde judiciaire, car même si le gouvernement a son mot à dire dans les nominations de hauts magistrats, c'est la garde des Sceaux qui soumet des noms au Conseil supérieur de la magistrature. C'est la manière qui ici est considérée comme brutal, ancestral, nous a même dit un président de cour d'appel. Les trois noms proposés pour le poste de procureur de Paris retoqués, c'est du jamais vu. En premier lieu, celui de Marc Simamonti, très bon connaisseur des dossiers financiers, personnalité indépendante, immédiatement écarté. Puis ceux de Marie-Yvonne Caillibotte et Marie-Suzanne Lequeo, deux magistrates expérimentés. Résultat de ce coup de balai, le siège de procureur de Paris reste vacant, même si ce soir, du côté du ministère de la Justice, on tente de déminer. On fait remarquer que Marc Simamonti avait également postulé au parquet général de Versailles, où il sera nommé. On indique aussi qu'il est normal que la garde des Sceaux prenne tout son temps pour s'arrêter sur un nom précis. Mais c'est l'interventionnisme de l'Élysée qui est retenu ce soir dans les milieux judiciaires.
Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL. On en reparle à 18h20, justement avec une magistrate. Laurence Blisson, c'est la secrétaire générale du syndicat de la magistrature.
Une demi-victoire pour le Rassemblement national. La justice a finalement réduit de moitié la sanction prononcée dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. 2 millions d'aides publiques devaient être confisquées, ce sera finalement 1 million.
Les défenseurs du bien-être animal passent à l'action, Isabelle, ce soir. Troisième édition de la Nuit Debout devant les abattoirs.
Une opération qui n'en est pas à son coup d'essai, mais qui se veut cette année plus offensive. Les militants sont attendus devant 5 abattoirs, une façon de concentrer les forces. Les manifestations se feront sous haute surveillance, on redoute des dérapage, car la coordination rurale appelle, elle aussi, à la mobilisation pour défendre les éleveurs. Écoutez, Alexandre Armel, il est le responsable de la section viande.
Oui, alors la coordination rurale va se mobiliser ce soir devant les abattoirs. Hein. Donc, ça fait déjà quand même la troisième année que nous le faisons. Donc, pour nous, la coordination rurale, la manifestation, elle se veut pacifique. Voilà. Après, nous ne savons pas comment les végans seront de leur côté. Hein.
Donc c'était Alexandre Armel, le responsable de la section vente, qui était l'invité ce midi donc de Christelle Robière. On marque une pause et dans un instant, Donald Trump, Emmanuel Macron face à face à l'ONU.
18h09, on retrouve la suite de RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et le journal d'Isabelle Choquet.
Avant de partir aux États-Unis à l'ONU, cette question, comment empêcher les pédophiles de passer à l'acte? Les spécialistes proposent de mettre en place une hotline dédiée, Isabelle.
Un numéro unique devrait être créé pour le printemps prochain, un numéro pour orienter les pédophiles vers des centres de soins adaptés et autant que possible éviter le pire, Mélina Fachin.
Oui, une prévention indispensable pour celui qui a lancé cette idée, le psychiatre Mathieu Lacambre. Il soigne des pédophiles parfois déjà en prison depuis 30 ans.
Les grands psychopathes pervers, eux, vont pas téléphoner un numéro unique. Mais ça représente une minorité de ceux qu'on rencontre, y compris en prison. À côté de ça, on a une grande majorité de personnes qui présentent au cours de l'accès à la sexualité un moment un peu compliqué, avec cette préférence sexuelle pour les enfants. C'est un trouble psychiatrique et qui est à l'origine d'une souffrance pour le patient lui-même.
Pour former les personnes qui seront au bout du fil, le docteur Lacambre va faire appel à une femme d'expérience, Latifa Benari, et son association L'Ange Bleu, qui existe depuis 20 ans. Tous les jours, en moyenne, une dizaine d'hommes en détresse l'appellent. Ils ont peur de céder à leurs pulsions. Et pour Latifa Benari, le téléphone est l'outil parfait.
Ils peuvent pas avoir confiance d'emblée. Beaucoup me disent qu'ils ne veulent pas aller chez les psys parce qu'ils leur font pas confiance. Le téléphone est fondamental pour le premier pas lorsqu'on sollicite de l'aide.
En Allemagne, une ligne téléphonique de ce type a été mise en place il y a déjà 13 ans et depuis, près de 10 000 pédophiles y ont eu recours.
Merci Mélina Fachin pour RTL. Donald Trump, donc, Emmanuel Macron, deux visions du monde face à face cet après-midi à l'ONU.
Le Conseil de sécurité est réuni sous la présidence de l'Américain. Ça change tous les mois, c'est le tour des États-Unis. Il y a deux jours encore, en tête à tête, les deux hommes donnaient le change en minimisant leurs divergences. Elles sont apparues clairement hier à la tribune de l'Assemblée générale. Et cet après-midi, Philippe Corbet, c'est un véritable duel qui s'est joué.
Oui, Trump avait un peu de retard. L'ambiance semblait cordiale en l'attendant. Macron plaisantait avec le Bolivien Morales jusqu'à ce qu'il n'entre. Grand silence immédiat, l'Américain s'assoit au milieu, un marteau à sa droite.
C'est un privilège de présider cette réunion du Conseil de sécurité.
Et pas de rire aujourd'hui quand il se vante. Quand il répète que les États-Unis sont en train de gagner à tous les niveaux, même s'il est isolé sur l'Iran, il met en garde les autres membres.
Je demande à tous les membres du Conseil de sécurité de travailler avec les États-Unis pour s'assurer que le régime iranien n'acquiert jamais une bombe nucléaire.
Puis il passe la parole aux Français, moins virulent sur la forme en présence de l'Américain, mais il rappelle l'importance de l'ordre multilatéral symbolisé ici au Conseil de sécurité.
La première question qui me vient à l'esprit en contemplant, si nous nous parlons franchement, nos divisions de l'année écoulée sur des sujets aussi importants, et tout simplement, que voulons-nous, nous, États membres du Conseil de sécurité, encore faire ensemble ?
Trump l'écoute attentivement, mais note le changement de ton.
À New York pour RTL, Philippe Corbet. On y revient tout à l'heure à 18h30 avec Alain Duhamel. 200 000 personnes souffrent de la maladie de Parkinson en France et l'un des principaux traitements sera bientôt en rupture de stock, Isabelle.
Le Sinemet, c'est son nom, est pourtant considéré comme un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. 45 000 patients l'utilisent. C'est pour ainsi dire le traitement de base. Mais depuis fin août, l'un des dosages n'est plus disponible et les deux autres ne seront bientôt plus livrés. Rien à attendre avant mars prochain. Comment est-ce possible, Virginie Garin ?
Eh bien, le laboratoire MSD invoque des difficultés de production, un sous-traitant n'a pas pu le livrer à temps. Alors il faut savoir aussi que ce médicament, le Sinemet, est un vieux médicament qui n'est pas très cher. Les associations de malades expliquent que c'est souvent le même problème lors des ruptures de stock. Quand la molécule ne rapporte plus grand-chose au laboratoire, celui-ci fait peut-être un peu moins d'efforts pour assurer une production continue. Donc le retour à la normale ne se fera pas avant mars. Alors il existe un générique, mais même en augmentant la production, ça ne suffira pas. Il y a un autre médicament, le Modopar, mais il va falloir que chaque patient soit suivi avec beaucoup d'attention par son médecin pour ajuster le traitement, trouver la bonne dose. L'association France Parkinson redoute un stress des malades. Arrêter le traitement peut entraîner des problèmes de sevrage. Elle demande donc aux autorités de faire pression sur le laboratoire pour qu'il accélère la production et qu'il s'organise autrement pour qu'à l'avenir, 45 000 malades ne se retrouvent pas du jour au lendemain sans médicaments.
Merci beaucoup Virginie Garin. Et puis on va terminer le journal avec un mariage qui risque de faire bien des victimes, des fashion victims d'ailleurs. En l'occurrence.
L'application de photos Snapchat va s'allier avec Amazon pour lancer un tout nouveau service, une sorte de Shazam du shopping. Concrètement, il suffira de photographier un vêtement ou n'importe quel objet pour atterrir sur la page Amazon du produit.
Horrible.
Clairement, Armelle Lévy, surtout pour vous, Amazon mise sur l'achat coup de cœur.
Oui, Isabelle, j'adore votre pull. Je veux le même. Je le filme avec mon smartphone.
Elle a une chemise,
Armelle. Ah, mais un chemisier. Snapchat envoie les images à Amazon qui me présente une série de chemisiers équivalents avec les prix et les photos. Je clique sur le modèle qui m'intéresse et là, je bascule sur le site d'Amazon pour payer en ligne et être livré deux jours après. J'aurai enfin le même chemisier que vous. En fait, les géants d'Internet ont compris que tout peut faire commerce tout de suite. Ce qui compte, c'est l'immédiateté. Vous avez un besoin, une envie, c'est court et fugace. Dans 10 minutes, ce sera passé. Donc, il faut optimiser l'achat à tout instant. Aux États-Unis, une chaîne de magasins a même créé une série télévisée où tout peut s'acheter dans leur enseigne. Là, avec son smartphone, c'est la suite de l'histoire. Nous pouvons acheter tout ce que nous voyons autour de nous sous l'impulsion et en s'alliant avec Amazon, Snapchat espère sortir de la crise en faisant revenir les 3 millions d'utilisateurs perdus en ce début d'année. Il lui en reste quand même 188 millions.
Merci beaucoup Armelle. Lévy en pull pour RTL.
Et pour terminer Marc-Olivier.
Un homme et une femme.
Un homme et une femme. La suite, Claude Lelouch tourne en ce moment à Deauville avec, figurez-vous, les mêmes acteurs qu'en 1966. Mmh. N'était pas gagné pour Jean-Louis Trintignant, mais il le fait. Scénario secret, c'est une surprise. On a toujours des surprises avec Claude Lelouch.
Et je crois même qu'il tourne deux films en même temps.
Vous savez tout.
J'essaye. À tout à l'heure, Isabelle. Les clés pour bien comprendre l'actualité. Bon appétit, bien sûr. Les députés veulent limiter le sel, le sucre et les additifs dans l'alimentation industrielle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est autorisé ? Que trouve-t-on dans nos assiettes, Jacques Serret ?
Eh bien, on trouve de tout, Marc-Olivier. Tout est autorisé car il n'y a en fait qu'une seule condition pour la mise en rayon d'un plat préparé. Par exemple, que le produit soit homologué, qu'il apporte la preuve qu'il n'est pas toxique. Bien sûr, les processus de fabrication sont contrôlés. Dans les usines, chez les artisans, les agents de la répression des fraudes vérifient l'hygiène des locaux et la traçabilité des produits, mais rien sur leur contenance. Sel, sucre, gras, additifs, les fabricants sont libres de mettre ce qu'ils veulent dans leurs recettes. Ils sont simplement incités par l'État ou bien encore par leur filière à respecter certains seuils.
Et alors, que réclament les députés ?
Justement, de poser un cadre, autrement dit, de définir des quantités réglementaires et d'établir des sanctions, des amendes pour les fabricants qui ne respecteraient pas les dosages, et cela pour le sel, le sucre et le gras. Les parlementaires proposent que chaque filière fixe les plafonds à ne pas dépasser pour chaque famille de produits. Reste à savoir si le gouvernement appuiera cette proposition. Le temps presse, en tout cas, selon la députée rapporteure de cette commission parlementaire. Si rien ne change, en 2030, 30 millions de Français seront obèses ou en surpoids.
Merci Jacques Sœur.
18h21, le premier invité de RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Premier invité d'RTL Soir, la secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Bonsoir Laurence Blisson.
Bonsoir.
L'exécutif a donc écarté les trois successeurs possibles de François Molins au poste de procureur de Paris. Finalement, excepté sous François Hollande, ça s'est toujours passé comme ça. L'exécutif a toujours suivi les nominations du parquet. Rien de nouveau sous le soleil presque.
Alors effectivement, rien de nouveau, toujours une situation problématique sur le plan démocratique qui consiste à laisser l'autorité judiciaire dans un rapport de dépendance vis-à-vis de l'exécutif. On voit bien qu'il peut y avoir une personnalisation plus ou moins importante, et qu'est-ce qu'il permet ? C'est le mode de nomination des procureurs, et c'est pour ça qu'il faut une réforme constitutionnelle pour couper ce lien très clair entre le pouvoir politique et les partis.
Sauf que Laurence Blisson, l'indépendance de la justice, elle est assurée par les juges.
L'indépendance de la justice, elle est assurée par les juges et les procureurs et par des modalités de nomination qui permettraient de clairement couper le lien. Aujourd'hui, on voit bien qu'il peut y avoir un choix du prince pour déterminer la personne qui sera en charge de suivre un certain nombre d'enquêtes.
C'est vous dites choix du prince ce soir. Vous dites aujourd'hui, finalement, puisqu'en écartant un certain nombre de gens, c'est le choix du prince qui prévaut.
On voit bien qu'il y avait une procédure, des personnes qui étaient envisagées, et puis la direction des services judiciaires publie un document, un appel à candidature. Nous, derrière cet appel à candidature, on voit clairement un appel du pied potentiel à une personne qui aurait été présélectionnée par l'exécutif. Il y a un jeu de passe-passe, là, je crois, à la chancellerie, qui veut donner l'impression qu'elle fait preuve de transparence. Ça fait 3 mois que ce poste est en attente d'être pourvu. Le procureur général à la Cour de cassation est aujourd'hui un poste vacant. C'est quand même particulier dans notre démocratie. Donc, il y a vraisemblablement un appel du pied qui doit être fait à, effectivement, un ou une candidate qui n'était pas parmi ceux qui étaient envisagés au départ, ceux qui s'étaient présentés au départ. Il y a une façon de maquiller un choix du prince en une sorte de renouvellement, comme si on allait chercher quelqu'un ailleurs. En tout cas, on ne peut pas s'empêcher de le suspecter, et cette suspicion même, elle pose un problème dans une démocratie. Il faut clairement que ce ne soit pas ni au ministère de la Justice, ni à l'Élysée, que se choisissent les procureurs ou les juges, mais bien par le Conseil supérieur de la magistrature.
Sauf qu'Emmanuel Macron a toujours dit ce qu'il pensait sur le sujet. Le parquet doit continuer, à mes yeux, à appartenir à une chaîne hiérarchique dont le sommet est une autorité qui porte cette responsabilité politique, l'assume, car c'est l'exécutif qui est dépositaire du mandat du peuple. Vous avez la réponse à votre question.
On voit bien que derrière cette chaîne hiérarchique, il y a une notion d'intuitu personae, c'est-à-dire le choix de la personne, le choix du prince, et pas une question plus générale qu'on assume et qui est légitime, qui est de dire, oui, les procureurs de la République doivent appliquer la loi et appliquer des directives générales, circulaires. Par contre, la personnalisation des postes dans la magistrature et notamment de ces hauts postes au parquet pose un problème majeur. En gros, derrière cette chaîne hiérarchique, il y aura des personnes qui devront leur carrière au président de la République, au ministre de la Justice.
Oui, mais ça c'est très théorique. Est-ce que forcément, si quelqu'un est nommé, forcément, ça veut dire qu'il va prêter allégeance au pouvoir exécutif? On peut aussi espérer, penser qu'il s'agit quand même de hauts magistrats et qu'ils puissent avoir une indépendance d'esprit.
Bien sûr, ça ne sera pas forcément le cas, mais il y aura toujours cette suspicion. Et donc, pour sortir de la suspicion et pour sortir de ce risque aussi, eh bien, il faut confier au Conseil supérieur de la magistrature les nominations pour l'ensemble des postes dans la magistrature.
Mais parce qu'aujourd'hui, vous sentez une sorte de reprise en main de la part de l'exécutif et une justice qui a peur ?
Je dirais que, en tout cas, tant qu'on n'aura pas coupé le lien, on ne pourra pas être dans un système dans lequel il n'y a pas, finalement...
Vous me parlez de suspicion, mais concrètement, au-delà de la suspicion, est-ce que aujourd'hui, ma question est concrète, vous détectez, vous sentez une reprise en main de la part de l'exécutif et une justice qui a peur ? C'est pas la suspicion, vous, de l'intérieur. Est-ce que vous sentez ça ou pas ? Vous êtes dans la suspicion ?
Ce qui est certain, c'est que des déclarations qui ont été celles de Nicole Belloubet récemment à propos d'une affaire affirmant que ce n'est pas une affaire d'État, des interventions du ministre de l'Intérieur pour dicter à tel ou tel finalement la nécessité de poursuivre et de poursuivre de manière sévère, ce sont des intrusions de l'exécutif qui malheureusement peuvent à un moment avoir du poids aussi par rapport à ce statut. Alors, on n'est pas dans une situation dans laquelle les juges ont peur d'agir, mais on est par contre dans une situation institutionnelle qui est hautement problématique, dans lesquelles il n'est pas normal que ce soit le président de la République qui soit garant de l'indépendance de la justice. À vrai dire, de notre point de vue, le problème, c'est la suspicion qu'en tout état de cause fera naître sur la nomination cette procédure.
Merci d'avoir été en ligne avec nous, Laurence Blisson. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du syndicat de la magistrature.
RTL Soir, 18h26.
Allez, à suivre, Europe contre États-Unis. Non, ça se passe pas à l'ONU, mais à la Ryder Cup. On vous amène en coulisses de la plus prestigieuse des compétitions de golf.
18h30 dans RTL Soir, les coulisses de l'actualité avec vous, Tiger Fogiel.
Avec Tiger Woods en guest star, c'est l'événement sportif de la semaine. La Ryder Cup près de Paris, on vous emmène en coulisses sur le green avec vous, Isabelle Langer. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marco.
Alors si la compétition officielle débute vendredi, c'est déjà l'effervescence?
Ah ouais, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, il y avait 25 000 spectateurs pour assister aux entraînements et je ne vous surprends pas en vous disant que le plus suivi a été le Tigre. Les organisateurs ont d'ailleurs dû installer un cordon de sécurité lorsqu'il est sorti du parcours. J'ai même vu une femme, les larmes aux yeux tellement elle était émue de voir son idole. Une sortie qui a toutefois été accompagnée de sifflets car Tiger Woods, comme ses coéquipiers de l'équipe américaine, sont passés sans s'arrêter pour faire quelques photos ou signer le moindre autographe.
Alors de l'effervescence, il y en a également dans les deux villages où vous pouvez acheter tous les produits, ils sont estampillés Ryder Cup.
Vous pouvez notamment trouver les polos que les joueurs porteront pendant la compétition. Il y en a trois, un différent chaque jour. Ils s'arrachent comme des petits pains. Les vendeurs craignent même une rupture de stock avant le début des hostilités vendredi. En revanche, désolé de vous décevoir Marco, mais je ne vous ramènerai pas de t-shirt à l'effigie de Tiger Woods.
Ah, dommage.
Ici, pas de merchandising personnalisé. Les stars du golf n'ont aucun article à leur nom. Tout est griffé Ryder Cup. D'ailleurs, il faut savoir que les joueurs viennent ici pour la gloire, car c'est une compétition qui ne leur apporte aucun dollar, juste le prestige de participer et surtout de gagner la coupe. Vous dire aussi que le golf national est un petit coin d'Angleterre pendant cette Ryder Cup. Les repas sont typically british. Toute la nourriture est importée d'outre-Manche et même pour l'électricité, il faut un adaptateur car les prises sont anglaises.
Rapidement Isabelle, ce qu'il faut aussi bien expliquer, c'est que la mesure de l'événement, c'est que la Ryder Cup est le cinquième événement sportif le plus suivi au monde, après notamment les JO d'été, la Coupe du Monde de foot et le Tour de France, Isabelle.
Ouais, la Ryder Cup, c'est près d'un milliard de téléspectateurs. D'ailleurs, le regret pour beaucoup, bien, c'est que cette édition qui se déroule sur notre sol ne soit pas diffusée en clair à la télévision.
Les coulisses de l'actualité étaient signées Isabelle Langer. Bon début de soirée sur RTL.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Isabelle Choquet pour le point sur l'actualité.
Le parquet de Paris ouvre une enquête pour provocation au crime après la diffusion d'un clip du rappeur Nick Conrad. Sur des images d'une extrême violence, le chanteur appelle à tuer des bébés blancs et à pendre leurs parents. Le gouvernement dénonce des propos abjects. Les magistrats, eux, dénoncent le fait du prince après l'intervention de l'Élysée dans la nomination du procureur de Paris. Les trois successeurs potentiels de François Molins ont été retoqués par l'exécutif, alors que c'est théoriquement la garde des Sceaux qui a la main. Nuit debout devant les abattoirs cette nuit. Les défenseurs du bien-être animal se mobilisent sur 5 sites. Manifestations sous haute surveillance par peur d'affrontement avec les éleveurs. 1 million d'euros au lieu de 2. La justice réduit la peine infligée au Rassemblement national dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Face à face, Trump-Macron cet après-midi au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président français affirme que la relation avec l'Iran ne peut se réduire à une politique de sanctions comme celle de son homologue américain. La météo, Patricia Charbonnier, soleil et température en hausse demain, en tout cas l'après-midi.
Oui, seulement l'après-midi. Le matin, ce sera très très frais avec, comme ce matin, des petites gelées blanches sur le quart nord-est du pays. Seulement 4 degrés à Lille et Cherbourg, 9 à Lyon, sous un ciel bien dégagé. Dans l'après-midi, beaucoup de soleil et en plus, les températures qui vont grimper en flèche. On va retrouver des températures estivales quasiment partout, jusqu'à 31 degrés demain après-midi à Bayonne ou encore à Bordeaux, 29 à Lyon et à Bourges, 27 à Brest et Paris et 23 degrés à Dunkerque.
À tout à l'heure. À tout à l'heure. Patricia, vous revenez à 18h50. Isabelle, à la fin du journal de 19h. le portrait ce soir.
Le portrait de Renaud qui se bat encore et toujours contre l'alcool.
Merci. Et à 19h, vous réentendrez Nick Conrad, donc document RTL, qui justifie son clip qui fait polémique. Pour lui, ce n'est pas un appel à la haine. Il veut simplement faire réfléchir. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 19h. À tout à l'heure.